Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama, une émission hebdomadaire de cinéma, d'actualité du cinéma. Et effectivement, on est en pointe de l'actualité, Marine, avec toi, parce que tu vas nous parler d'un film qui va sortir dans une semaine à peu près.
Oui, c'est ça, ça sera à peine j'ouvre les yeux, un film tunisien de Leila Bouzid, qui est excellent, un film générationnel. Et je vais vous parler d'un deuxième film générationnel, c'est Comment c'est loin, du rappeur Orelsan.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai d'un film qui sort le 16 décembre, c'est le nouvel Michel Leclerc, c'est celui qui avait fait Le Nom des gens, et c'est la vie très privée de Monsieur Sim avec Jean-Pierre Bacri. Je vous parlerai aussi, eh bien, non pas de Star Wars, on va l'avouer, on ne l'a pas vu.
On verra non. Tout à l'heure.
Peut-être. Enfin, en ce qui me concerne, je ne le verrai pas tout de suite, mais toi, tu as tenu à assister aux premières séances. Mais je parlerai d'un autre blockbuster, c'est Au cœur de l'océan, ça n'a rien à voir, c'est le dernier Ron Howard. Et puis, on aura l'occasion aussi eh bien, de jouer un blind test, puisque eh bien, j'ai pu voir Cafard, film d'animation, alors plutôt destiné aux adultes. Et on fera un blind test spécial film d'animation en direction des adultes. Il y en a quand même quelques-uns, c'est Cinérama qui débute maintenant.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Le Nom des gens avec Sarah Forestier qui fait basculer les hommes de droite en couchant avec eux, la consacrée télé gaucho l'installait décidément dans la comédie aux connotations politiques. Au travers de cette télé associative anarchiste et révolutionnaire, il évoquait Télé Bocal, une chaîne à laquelle il avait participé. Eh bien, changement d'univers hein, pour Michel Leclerc avec la vie très privée de Monsieur Sim où l'on troque Sarah Forestier contre Jean-Pierre Bacri. C'est pas le même univers.
Sim, François Sim, trouve la carte. C'est Caroline, ma femme, qui avait acheté le voyage sur Internet. Elle m'a quitté le mois d'après. Vous savez que je suis en pleine dépression depuis 6 mois.
Ah oui ?
Ouais.
Sim est un dépressif, hein, il ne s'en cache pas. L'avoue à qui veut bien l'entendre, mais c'est un dépressif heureux, quoique tenu par le doute. Alors il aime entrer en contact avec son entourage et ne se refuse aucune aventure. Alors quand on lui propose à lui, le commercial, d'aller vendre sur les routes une brosse à dents révolutionnaire en poils de sanglier... Eh bien, il accepte. D'autant qu'on lui fournit une voiture avec un GPS qu'il ne tarde pas à prendre pour sa meilleure amie et qu'il appelle Emmanuel.
Quatre vendeurs partent aux quatre coins de l'Hexagone.
La quête, comme dans Le Seigneur des Anneaux.
Prenez la première sortie.
Il faut savoir, Emmanuel, mais ça va, je plaisante. Je t'ai appelé Emmanuel.
La brosse en poils de sanglier.
Et alors, je vends pas des brosses à dents ici.
Et les gens qui viennent prendre de l'essence, ils ont pas des dents ?
Bon, je vous jure que ça nous intéresse pas.
Ainsi, Monsieur Sim part sur les routes. C'est donc un road movie, alors un peu solitaire, mais pas tant que ça, qui nous emmène donc sur les routes de France, la France qui se ressemble, celle des zones commerciales dans un premier temps, des ronds-points très moches, des lumières et des chaînes de restaurants, parce que Monsieur Sim aime beaucoup certains plats de ces restaurants, des centres commerciaux. Alors pendant cette large moitié du film, en arrière-plan, il y a toujours des enseignes, une saturation d'ambiance commerciale, avant de retrouver dans une deuxième partie eh bien, des paysages un peu plus bucoliques, et pour enfin terminé avec des images saturées de soleil, mais nous ne serons plus dans les villes et villages de France. À la manière de ces paysages qu'il traverse, Monsieur Sim va évoluer. Avec cette histoire adaptée d'un roman de Jonathan Coe, Michel Leclerc met en scène un homme qui doute, se remet en question, tente de se retrouver, un homme qui a été coupé de ses envies, coupé des autres. Alors déjà, il est divorcé, n'a pas connu d'autres femmes, du moins on ne l'imagine pas. Il a une jeune fille, mais les rapports ne sont pas chaleureux. Son père, eh bien, il se tient à distance et vit en Italie. Le portrait n'est pas très flatteur. La dépression n'arrive pas de nulle part. Alors si dans le paysage, les zones commerciales saturent l'image, dans le quotidien de Monsieur Sim, il y a les outils de communication numérique qui, là encore, le mettent à distance de lui-même et des autres. Skype, Facebook, le GPS, tout cela est prétexte à rire, car la vie très privée de Monsieur Sim est avant tout une comédie servie par un Jean-Pierre Bacri qu'on n'a pas de peine à imaginer en dépressif, ça c'est vrai, mais n'imaginez pas le voir non plus qu'en grincheux. Hein. C'est un dépressif ouvert, vaguement naïf, en quête de lui-même et qui va trouver des réponses. À l'image de son GPS qu'il décide de ne plus écouter, Monsieur Sim va trouver son chemin.
Vous avez connu la solitude, vous ? La vraie ?
Non, pas spécialement.
C'est ça que j'aime bien chez toi, tu me juges pas.
passe notre vie à éviter les contacts avec les autres. On se frôle. On se côtoie, on s'évite. J'ai réalisé à ce moment que si je mourais subitement d'une crise cardiaque, ça ne bouleverserait pas grand monde.
Il n'a pas l'air très bien, votre ami. En fait, il a l'air mort.
Pas du tout, on était en pleine discussion, il n'est pas très bien.
Monsieur !
Vous croyez que c'est en rapport avec ce que je racontais ? Oui, parce que ça existe, hein, être ennuyeux à mourir. Et oui, mais ça vient pas de nulle part, comme expression. Ouais. Ouais.
Alors, quand il dit « Toi, je t'aime bien parce que tu ne me juges pas », il parle à son GPS, hein, voilà. Parle pas à quelqu'un. La vie très privée de Monsieur Sim n'a peut-être pas la force comique du nom des gens, et il est moins surprenant dans sa thématique. On se dit, tiens, un dépressif, Bakri, oui, on a déjà vu ça. Pourtant, là aussi, le film flirte avec l'étrangeté. Le film peut s'apparenter à une comédie mélancolique, mais où le rire domine. Michel Leclerc n'enfonce pas son personnage, mais au contraire l'accompagne dans son questionnement sur lui-même, et il en devient touchant. Le seul bémol réside peut-être dans la construction de personnages secondaires un peu abstraits, mais pourtant nécessaires au récit, mais ça ne déséquilibre en rien la saveur de cette douce comédie qu'on a pu voir d'ailleurs au Cinémède il y a quelques temps. Marine, qu'en as-tu pensé ?
Moi, j'ai peut-être pas été aussi sensible que toi. Je dois dire que j'étais un petit peu perdue, en fait. Voilà, parce que pour moi, ça part un peu partout, voilà, dans plein de sens très, très divers. Et du coup, je dois dire que j'étais un peu perdue, un peu trop. Donc, j'ai pas trop su quoi en penser de prime abord. Et même après coup, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc voilà, ça ne m'a pas autant plu que toi, sans pour autant que ça me déplaise.
Et sinon, interprétation
de Bakri. C'est une critique constructive.
Mais non, mais pourquoi pas. Interprétation de Bakri qui est de tous les plans. Hein,
évidemment, oui. C'est vrai que lui est excellent dans le film. Comme il n'est pas non plus d'un charisme incroyable, pour moi, ça ne sert pas à rendre le film intéressant de bout en bout. Mmh. Mais ça, c'est mon avis très personnel.
Mais si, après, on peut parler quand même de l'aspect comédie, parce que voilà, il est question d'un dépressif.
Quand même pas hyper présent non plus. Enfin, c'est pas très très drôle. C'est même plutôt assez dramatique, je trouve. C'est pas hilarant.
C'est pas hilarant,
non. Pas trop, presque jamais, en fait.
Mais ça reste quand même une comédie. Moi, j'ai parlé de comédie peut-être mélancolique.
Amère, alors voilà, vraiment
peut-être amère. Voilà, ouais. Bon, il est question de dépression, quand même. Oui. Mais malgré tout, voilà, il y a une espèce de décalage assez savoureux. C'est à tenter, en tout cas, ça s'appelle « La vie très privée de Monsieur Sim ». Et on va passer à toute autre chose, puisque c'est Grinch et Orelsan.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors attention Vincent, on dit gringe. Et surtout pas gringe parce que ça il le prend très mal. On va tout de suite se mettre dans le bain.
En fait, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de producteurs ?
Bah déjà moi je peux vous faire des instrus parce que là vous rappez sur des instrus des phases B quoi. Et après nous on vous met à disposition le studio, on enregistre votre album, on fait vos clips, la stratégie, tout ça. Après vous pourriez vivre de votre musique. Et depuis vous avez pas fini un seul putain de morceau.
Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau.
Ça quoi ?
Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous.
Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Y'a 3 blagues de cul, un truc sur le Wonder Cash et y'a rien de fini.
C'est parce qu'on essaye de faire un clip.
Mais y'a pas de morceau fini. Tu veux clipper quoi ?
Stupide. Le premier clip au monde à base de caméras de surveillance.
C'est bon, frère. On s'arrache.
Attendez, les gars, c'est une blague, c'est pas possible. Pas
non,
sérieux.
C'est pas une blague, Gringe. C'est bon, on arrête tout, on arrête là. On arrête, on range le matos, on arrête de payer le loyer, vous faites votre vie.
On fait comment nous pour payer le loyer avec Aurel ?
Fallait réfléchir avant. On dirait que t'en as rien à foutre. On n'arrête pas de charbonner, on bosse, vous foutez rien. Tout est normal.
Et si on vous fait un son pour demain ?
Ça change rien. Vous êtes déjà pas capable de me sortir un son en 5 ans ? Vous me parlez de faire un son pour demain ?
Ouais mais ça va, ne sous-estime pas non plus.
Mais vous êtes pas capable de faire un son les mecs.
Mais si on est capable.
Mais non, t'es pas capable, non.
Mais si.
Non.
Mais si.
Bah non.
Mais si.
Bah non.
Mais si mon gars.
Bah non.
Mais si.
Bah non.
Bah moi je te dis que si.
Non.
Moi,
c'est bon. C'est quoi ? Vous faites un morceau les gars. Nous on revient demain, même heure. Puis on voit ce qu'on fait, ok ? Et on se barre. Et me faites pas encore un morceau sur l'alcool ou vos blagues de cul, ok ?
Faites un son qui parle aux gens.
Comment c'est loin prend à revers le principe du film de rap. Il n'est nullement question ici de l'ascension d'un rappeur venu d'un quartier sensible, de son combat pour une vie meilleure ou pour sa musique, mais de deux trentenaires, Orelsan donc et Gringe, qui vivent à Caen et sont incapables de finir un seul morceau. Enchaînés à leur canapé et empêtrés dans leur flemme, ils se contentent de redoubler d'inventivité pour glander, échapper à leurs responsabilités et surtout à leurs producteurs qui payent leur loyer dans l'espoir de voir leur poulain créer un chef-d'œuvre. Lorsqu'ils décident de leur couper les vivres, le binôme leur promet, un peu trop vite, d'écrire et d'enregistrer un morceau dans les 24 heures suivantes. Comment c'est loin est une sorte de comédie musicale nouvelle génération qui mélange le concept de Bloqué, la pastille humoristique d'Aurel San sur Canal+, dans laquelle deux colocs dissertent sur divers sujets, et l'album concept de leur groupe Les Casseurs Flotteurs, dans lequel chaque morceau correspond à une heure dans la vie d'un duo de trentenaires. C'est dire si la dimension autobiographique est prégnante ici, mais le film réussit à la conserver tout en réinventant le film de rap qui a souvent une construction scénaristique très classique, comme on peut le voir dans le célèbre 8 Mile ou le récent et très réussi Straight Outta Compton. En oubliant de glorifier ses personnages, en appuyant sur leurs défauts, le film apparaît non seulement d'une surprenante sincérité, dépouillée de tout égotrip, et c'est dire qu'un peu d'humilité dans le monde du rap est forcément bienvenu, et surtout, le film colle aux angoisses de la génération Y avec pas mal d'humour.
J'arrive en cours avec plus de retard qu'une femme enceinte. Pieds sur la table, Reebok blanche, taille 45. Je rends copie blanche, laisse pas d'empreinte. C'est tous les jours dimanche, si tu me reçois bien, tape-moi 5.
Tape-moi 5,
y'a rien à faire, je suis paresseux. Comme une maladie grave, mon capi grave, mais sachez de peu. L'argent facile, les filles aussi obsédées par les deux. Donc je compte mes billets pendant que ta petite copine me tape tes queues. Ah, fous-moi du son comme ça que je m'immerge. Je m'en fous de tout exploser, j'ai déjà baisé 70 vierges. Pour moi, le rap c'est easy comme un exercice de maths. Même si t'es mort dans l'œuf, même si t'es mort sur l'île de Pâques. Mec, on apporte 109, défonce comme une pipe de crack. Approche-toi des enceintes, finis ta vie comme Simple Jack. Et je donne ça à l'ancienne époque tatouée Bob Kangol. Quand on tirait jusqu'au filtre sans que ça parte en clope menthol.
Le meilleur groupe de tous les temps avec un job à côté. Ma meuf a 15 ans, on fait des jeux bizarres avec sa corde à sauter. Je suis Mick Jagger qui fait de la téléprospection. Je connais moins bien mon visage que mon reflet dans la machine. Pression. Je fais tout le contraire de ce que je suis censé faire, la preuve. Je rappe, je mets leur album à l'amende avec un seul track, un seul bac, ces jeunes catins. Rêve de vivre dans une pub de parfum. On vit dans les pubs préventives où les jeunes meurent à la fin. Même pas sûr d'avoir le mérite d'exister. Pessimiste, c'est la sixième fois de la semaine que je me fais dépister. J'ai du mal à me faire gicler quand je suis déchiré. Je fais climer, je vais jusqu'à ce que la capote soit périmée. Je traîne avec des mecs inadaptés qui prennent des drogues avec des noms qui font toutes les lettres de l'alphabet. Adolescent attardé, hooligan au crâne rasé. Macabé, à 3h du mat au Mac.
Bon, alors, oui, soyons clairs sur ce point. Si vous êtes allergique à ce genre de musique ou pas trop sensible à ce type de punchline, pas la peine d'aller voir comment c'est loin, parce qu'il y a quand même pas mal de passages musicaux. Mais disons-le tout de suite, ça serait aussi dommage de s'arrêter à ça, parce que le film est non seulement très réussi, mais également surprenant. C'est un peu dommage que la communication autour du film soit surtout calibrée pour attirer dans les salles le public de Aurel San. Mais il s'inscrit vraiment d'une façon plus générale dans un registre générationnel qui dépasse le simple film à destination des fans. Alors, peut-on filmer l'ennui pendant 2 heures sans le provoquer chez les spectateurs? C'est un autre défi à relever pour ce premier film, et Aurel San le fait avec brio, une mise en scène simple mais efficace, pour laquelle quand même il a été aidé par un certain Christophe Offenstein, que je ne connais pas du tout. Une écriture intelligente et surtout une excellente interprétation des deux rappeurs et comédiens. Donc vraiment, dans l'ensemble, je trouve ça extrêmement réussi. Je ne suis peut-être pas forcément objectif parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait déjà à la base. Mais je pense que c'est vraiment à voir.
Tu le dis, c'est un film générationnel et sur ta génération. Ça,
oui, c'est ça. Que... okay. Donc je me sentais concernée. Mais je pense quand même que ça parle à pas mal de gens, et d'un point de vue cinématographique, c'est bon aussi. Voilà.
Eh bien, merci, Marine. On va passer à toute autre chose, film d'animation pour adultes, et ce sera l'occasion de jouer à un blind test.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Le film d'animation n'est pas seulement réservé aux enfants, on le savait, de Ghost in the Shell à Persepolis, en passant par Vals avec Bachir. Le dessin animé n'est pas seulement une œuvre invitant l'adulte à se complaire dans l'immaturité. Mais on ne peut pas dire qu'on est submergé par les propositions artistiques. Alors une bonne raison d'aller voir Cafard, une production belgo-charentaise. C'est peut-être la première fois qu'on fait la liaison entre les deux. Réalisé par Yann Bultil, je crois qu'on dit comme ça, qui a fait sa carrière dans l'animation, ce long métrage est un projet singulier. Alors d'abord, il s'inspire d'une histoire vraie, quelque peu rocambolesque et tragique à la fois. Il s'agit du parcours de Jean Mordant, un champion de lutte qui, au moment de sa consécration comme champion du monde à Buenos Aires, apprend que sa fille a été violée à Ostende par des Allemands qui occupent la ville. Alors nous sommes en 1914, Jean va retourner en Europe et chercher le moyen de casser du Bosch pour se venger. Au travers de son histoire, c'est le destin du bataillon belge ACM pour autocanon mitrailleuse, composé de 400 soldats, qui nous est révélé. Car c'est dans ce bataillon qui va faire la guerre sur le front russe que Jean Mordant, son entraîneur et son neveu vont s'embarquer en se disant, ma foi, que la guerre va finir bien vite. C'est donc un drame à n'en pas douter. On appréhende la grande guerre, mais aussi la révolution belchevique, car tout va se compliquer pour le bataillon belge. Fini le tsar, bonjour les soviets. C'est une longue histoire qu'aurait pu raconter là Yann Bultil. tiré d'un ouvrage intitulé « Les héros du roi Albert », bien plus long et précis que ce qu'on peut voir dans Cafard.
Nom du Dieu, t'entends ? Ils nous ont tiré dessus ! Salopage !
Ça va pas bien, tonton.
Non, ça va pas bien du tout.
Tu ferais mieux d'essayer de penser aux autres au lieu de tirer la tête et de nous emmerder tous les jours avec ta Mimi. Elle a été violée, ouais. Et alors ? Toute la Russie a été violée.
Je vous embête avec mes souvenirs.
Ah non, 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 on a tous nos souvenirs.
Mais l'intérêt de ce film d'animation réside aussi, alors, dans sa forme, l'animation en motion capture, ou pourquoi ne pas dire capture du mouvement. C'est plus simple. Les personnages dessinés sont en fait des comédiens réels qui donnent leurs gestes au dessin. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, mais le réalisateur a voulu que ce soit Benoît Magimel qui fasse le champion de lutte, et Jean-Hugues Anglade son entraîneur, et puis, tant qu'à faire, Julie Gayet a prêté sa voix et ses mouvements à un personnage russe. Car non seulement ici, les mouvements sont ceux des comédiens, mais leurs voix ont aussi été capturées pendant la prise. Un procédé louable pour ce qui est du mouvement, un peu moins heureux pour le son, souvent en retrait. Magimel et Anglade composent un personnage, certes, mais l'animation permet tellement plus de liberté d'interprétation sur le personnage qu'il est dommage d'en donner la voix à des acteurs connus. Moi, c'est ce que je pense la plupart du temps. Alors, il s'agit de marketing quand il s'agit de films de Disney, mais ici, cela semble un parti pris artistique. Alors, les mouvements sont vraiment une réussite du film, tout comme la technique du dessin qui devrait ravir les amateurs de Minecraft. Nous sommes plongés dans une esthétique du jeu vidéo avec des formes plutôt brutes. Les traits, la couleur, jamais vraiment réalistes, et la ligne sont privilégiées par rapport à la précision. Cette texture en low poly se déploie sur toutes les séquences. Alors, ni Pixar ni DreamWorks ne vont piquer l'idée. Ils aiment bien trop lisser le dessin pour ça. Cafard tire donc son attrait ailleurs que dans son histoire qui regarde la guerre sous un jour romanesque. La forme va puiser dans les couleurs, le dessin, les mouvements fluides pour nous révéler le rapport des personnages donc à l'horreur de la guerre et aussi à la diversité de l'humanité. Les mouvements de caméra sont parfois trop insistants, du tremblé au travelling, avant et circulaire. Le réalisateur détaille une palette peut-être trop voyante, mais qui donne aussi du caractère à ce film qui n'aurait rien gagné à être pesant. Cafard donc, est dans les salles depuis déjà le 9 décembre et j'espère qu'il va avoir son petit succès. Ça nous donne l'occasion de jouer un film spécial film d'animation, alors plutôt destiné aux adultes. On verra aussi dans les propositions que je vais vous faire qu'il y a des films qui s'adressent également aux enfants. Mais on commence alors avec un extrait très très facile à identifier.
Qu'il parle ou pas, ça n'a aucune importance. Il ne fera pas sa bar mitzvah.
Je peux savoir pourquoi ?
La bar mitzvah, c'est pas fait pour les chats.
Mais, maître de mon maître, quelle est la différence entre un humain et un chat ?
Dieu a fait l'homme à son image.
Ah, ouais. Dans ce cas, pouvez-vous me montrer une image de Dieu, s'il vous plaît ?
Impossible. Dieu, c'est une parole.
Ah, je comprends. C'est pourquoi, si l'homme est comme Dieu parce qu'il sait parler, moi, je suis comme l'homme.
Non, parce que ta parole, elle est mauvaise. Parce que tu l'as acquise dans un acte de mort.
C'est pas vrai, j'ai pas mangé le perroquet.
En plus de ça, tu es un menteur.
Avec la parole, on peut dire tout ce qu'on veut, même des choses pas vraies. C'est un merveilleux pouvoir. Vous devriez essayer.
Tu sais quoi, Abraham ? Ton chat, tu devrais le noyer.
Oh, vous croyez ? Non. Je l'aime bien, ce chat. Et puis, il aime pas l'eau.
Ah, c'était facile, Marine.
Ouais, c'était le chat du rabbin de John Sfar.
Voilà. Adapté de son ouvrage, tout simplement. Ouais. Deuxième extrait.
Écoute, on ne peut pas l'appeler n'importe comment, c'est un bébé. Sois raisonnable, ce n'est ni un chiot ni un chaton.
En tout cas, je l'emmène à la maison.
Quelle maison ? Elle a des murs en carton.
Et en plus, il n'y a pas de place.
C'est une chance qui ne se représentera jamais. Je voudrais être une mère, rien qu'une fois. Non, je vais inventer un haïku. Un bébé est né, flocon de neige sur son nez, la nuit de la nativité.
Alors, beaucoup de musique dans ce dessin animé, des personnages un peu énervés. Il y a Jean, un homme ruiné, Anna, une femme transgenre, et puis Yuki, une petite adolescente. Ils retrouvent un nouveau-né le soir de Noël. C'est Tokyo Godfather.
D'accord.
D'ailleurs, il y a un S. Film japonais sorti en 2003. Un nouvel extrait.
Toi, tu veux partir à New York avec une de ces garces, et moi, je veux voir la tête qu'elle a.
Ah, ça alors, c'est bien la première fois que c'est pas une ricaine. Dégage, va voir ailleurs. Il y a plein de mecs qui demandent que ça. Celui-là, c'est le mien.
Plus maintenant, parce que maintenant, c'est le mien.
On voit bien que tu le connais pas.
Ah ! Et on voit bien que tu ne me connais pas non plus. Dégage ! Dégage, je te dis !
Je vais t'apprendre à voler mon homme, petite garce, fais pas ça, une femme
de
moi !
Ne me touche pas, t'entends ? Me touche pas !
Je te dis pas touche !
Sale pute ! Tue toi-même !
Lâche-moi !
C'est toi qui vas me lâcher !
Je vais te défigurer !
Arrête ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Je te dis, fous-moi la paix, t'entends ?
Je vais te tuer !
Mais t'es complètement folle !
Alors, film d'animation pour adultes prend son sens ici, hein, puisque ça ne concerne vraiment pas les enfants, ce qui se passe dans cette scène. Alors... Alors, c'est Chico et Rita.
Ah.
Voilà, film qui a remporté quelques prix, mais qui n'était pas de bonne facture, selon moi. Mais quand même, voilà, qui a marqué un peu les esprits. Encore un extrait facile.
Vous dites que nos cagoules sont courtes, que nos pantalons sont indécents, que nous nous maquillons, etc., etc. En tant qu'étudiante en art, une bonne partie de mon temps se passe à l'atelier. J'ai besoin de liberté de geste afin de pouvoir dessiner. Une cagoule plus longue rend la tâche encore plus difficile. En ce qui concerne nos pantalons, vous leur reprochez d'être trop larges alors qu'ils cachent efficacement nos formes. Sachant que ces pantalons sont actuellement en vogue, je pose la question. La religion défend-elle notre intégrité physique ou s'oppose-t-elle simplement à la mode ? Vous n'hésitez pas à nous faire des remarques, or, les frères ici présents ont toute forme de coiffure et d'habillement. Parfois, ils mettent des vêtements tellement serrés qu'on arrive même à voir leurs dessous. Comment se fait-il que moi, en tant que femme, je ne puisse rien éprouver en regardant ces messieurs moulés de partout, mais que, en tant qu'homme, puisse s'exciter sur nos quelques centimètres de cagoule en moins ?
Ah, c'était facile, n'est-ce pas ?
Oui, c'est de Persepolis, de Marjane
voilà.
Satrapi.
Voilà, on le passe souvent dans les blind tests, celui-ci, pour tout un tas de raisons. Voilà, on va terminer. Alors là, c'est l'évocation de la bande originale du film, et c'est aussi une séquence, parce que cette musique, sont rajoutés quelques sons de la séquence.
This is not a love song.
Et ça a été trouvé, Marine.
C'était Valse avec Bachir.
Voilà.
Ça, mais c'est... j'ai gagné contre moi-même, donc.
Bravo. Voilà, c'était donc le blind test spécial film d'animation pour adultes. Et nous passons maintenant à un film qui va sortir un peu avant Noël.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Oui, on enchaîne donc dans À peine j'ouvre les yeux, dans lequel nous suivons le parcours de Farah, jeune Tunisienne en passe d'avoir son bac, qui chante dans un groupe de rock engagé et qui aspire à devenir une personne libre, car l'histoire se déroule en 2010, à la veille du printemps arabe. Le pays plie sous le poids de la censure, l'État surveille ses citoyens au moyen de la délation et de la répression, chaque voisin peut être un indique à la solde de la police et la jeunesse est écrasée au moyen de différentes lois liberticides. Farah doit faire face avec son groupe à tous ceux qui cherchent à faire taire leur voix et se battre contre sa propre famille pour entamer une carrière dans la musique. Il aura fallu que quelques années passent pour que le cinéma tunisien revienne sur cette période pourtant récente. C'est Leïla Bouzid, réalisatrice tunisienne d'à peine 30 ans, fille de Nouri Bouzid, célèbre cinéaste, qui ressuscite ici les heures sombres de son pays dans un premier film très réussi. Considéré comme le film d'une génération, la génération de ceux qui ont connu la paranoïa et la répression policière, À peine j'ouvre les yeux a raflé pas mal de prix dans les festivals qui l'ont accueilli, notamment à la Mostra de Venise. Le film tire son nom d'une des chansons écrites par Farah dans le film et parle avant tout de la façon dont le peuple tunisien a ouvert les yeux sur l'oppression, la façon qu'une jeune fille a d'ouvrir les yeux sur ses propres désirs et la façon dont sa mère ouvrira elle aussi les yeux sur les aspirations de sa fille. Nous sommes dans une œuvre fictionnelle, mais où tout transpire la réalité, dans laquelle des acteurs non professionnels très convaincants partagent le cadre avec de vrais gens, pas de figurants ici, pas de prise de son autre que celle des vrais concerts. Le film a l'esthétique soignée du long métrage et la véracité du documentaire. C'est un film qui dénonce sous des dehors de films initiatiques, pendant que le personnage de Farah découvre l'amitié, la musique, la trahison et l'amour, le spectateur découvre ce qu'est la vie sous une dictature, la façon dont le régime de Ben Ali a fait taire une génération, son énergie et ses envies de contestation. Car le film accomplit en ce sens un devoir de mémoire afin que l'on n'oublie pas cette oppression dont les relents sont encore très présents. Leïla Bouzid, que j'avais rencontrée au cinéma, m'avait notamment expliqué qu'actuellement moment, en Tunisie, il y a quand même environ 7000 jeunes qui sont en prison pour avoir fumé du cannabis, puisqu'on peut vous soumettre un test de toxicologie à n'importe quel moment, et s'il se révèle positif, eh bien, vous prenez un an de prison ferme, ce qui montre quand même que la répression n'est malheureusement pas encore terminée, et ce qui rend d'autant plus ce film important, je pense. Et voilà, il faut absolument le voir. C'est en plus extrêmement bien joué, très bien filmé, c'est très prenant, très énergique, c'est vraiment à ne pas rater. Et donc ça sort la semaine prochaine.
Voilà, il sortira malheureusement que dans quelques salles, mais voilà.
Oui, si vous le voyez... pense pas non plus qu'il va pouvoir avoir un nombre de copies impressionnant, malheureusement.
Pas comme Au cœur de l'océan, dont nous allons parler maintenant.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Avant le Star Wars tant attendu par certains côté blockbuster, le mois a été timide à l'exception d'Au cœur de l'océan, le dernier film de Ron Howard. Alors aucune concurrence possible avec La guerre des étoiles qui nous emmène dans les autres galaxies, puisqu'ici on va sur l'océan à la recherche de baleines et plus précisément de cachalots. Et si on peut être plus précis encore, on ajoute le cachalot, l'infernal, celui de Moby Dick. Nous embarquons sur le navire Essex au début du 19e siècle. À cette époque, l'huile de baleine est très prisée pour l'éclairage. C'est une vraie industrie. Hein. Il y a des colossales fortunes qui naissent ou se perpétuent à cette époque. À terre, c'est la finance avec des hommes bien nés. Et sur l'océan, eh bien, ce sont les va-nu-pieds, les fuyards et tout le monde s'en accommode. Mais avant d'aller plus loin, il faut préciser qu'au cœur de l'océan se déroule à deux époques. Dans l'une, le pétrole a déjà été découvert. On y voit Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, qui tente de soutirer un témoin du combat entre le cachalot blanc et les hommes, la fameuse histoire de l'Essex. Et puis dans l'autre époque, eh bien nous sommes quelques années auparavant sur justement l'Essex. Et l'essentiel du film se passe donc dans le passé.
Nous nous rendions aux confins de la raison et de la folie. Comme si nous étions des apparitions, des spectres. La confiance fit place au doute. L'espoir à la superstition. La tragédie de l'Essex est l'histoire d'hommes et d'un démon.
Ah, ça fait flipper, hein. Sur ce bateau, il y a un capitaine, George Pollard, issu d'une famille riche, et un second, Owen Chase, qui revendiquerait volontiers la place de capitaine, interprété par le géant Chris Hemsworth. Mais le problème de Chase, c'est qu'en dépit de sa valeur à la tâche, eh bien, il est orphelin et sans le sou. Alors ces deux-là, avant même d'affronter le cachalot, vont devoir s'entendre. C'est un classique, hein, ça met d'autant plus de piquant à l'aventure. Alors sinon, à part une tempête, on ne se ferait quasiment pas de mouron pour cet équipage. Une bonne partie du film est guidée par la quête de la baleine, mais aussi par la quête de l'autorité. Cette partie du film est plutôt prenante, on est en immersion sur ces baleiniers d'une autre époque. C'est tout juste si on ne nous montre pas deux ou trois nœuds marins à réaliser. Il y a une dose documentaire que Ron Howard assume avec une certaine réussite. On est vite, alors d'abord sur l'Atlantique et puis très vite sur le Pacifique. De l'approche à la pêche des cachalots, et bien, il se passe du temps que le film est forcé de balayer, hein, parce qu'il s'agit de campagnes de pêche qui durent plus d'une année. Quand il n'y a pas un grain, une bestiole à pêcher, et bien, on suit les hommes à bord. Alors Ron Howard en fait vite le tour, ce qui va nous faire défaut dans la seconde partie du film, car à partir du moment où le bateau va faire la connaissance de l'immense cachalot blanc, eh bien le récit va basculer et l'équipage va être durement mis à l'épreuve. Les individualités vont s'effacer peu à peu. Cette partie-là du film est plus convenue et on a peine à y entrer pleinement. On entre dans une ambiance de survival, mais qu'il s'agisse de la mise en scène ou de l'interprétation, l'ensemble est malheureusement poussif et le blockbuster reprend le dessus. Alors après, il s'agit d'attendre que l'aventure se termine et comme il s'agit d'un récit, n'oublions pas qu'Herman Melville, lui, note scrupuleusement tout ce que lui dit le marin, tout ce qu'il a vécu et cette campagne de chasse. Donc ça donne l'occasion à Ron Howard de stimuler le récit. Sauf qu'à part quelques dialogues qui font sens entre l'écrivain et le conteur, eh bien, on s'ennuie ferme. S'en suivra un épilogue farci de morale qui vaut ce qu'il vaut. Mais quand on sait que c'est un gros produit hollywoodien, eh bien, on ne s'en inquiète pas. Nul metteur en scène ne s'aperçoit vraiment dans Au cœur de l'océan. Les effets spéciaux valent surtout pour les cachalots, alors eux qui sont très réussis. Pour le reste, le numérique, est bien trop visible. Alors si vous aimez les aventures sur l'eau, il y a quand même une grosse moitié du film qui pourrait vous contenter. Pour la suite, c'est surtout la politesse ou le froid dehors, hein, qui force à rester dans la salle.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Nous étions un peu en avance, nous avons parlé de films qui sortent le 23 décembre. Et la semaine prochaine, eh bien, ce sera aussi le cas avec deux interviews.
Oui, on vous parlera du nouveau, un film de Rudy Rosenberg et de L'étreinte du serpent.
Du serpent, film voilà. Colombien. Voilà, et on a rencontré le réalisateur également. Donc deux interviews la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.